Bonsoir. En fait, je pense que tout ce que vous avez décrit, même si franchement j'ai pas tout compris, on arrive à le percevoir, en tout cas les gens qui sont ici, c'est certain. Je crois que, en tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire aujourd'hui, demander des comptes à ma banque pour une fois, avoir vraiment une. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour que les choses changent. Alors c'est complètement idéaliste, mais bon.
Si je voulais prêcher pour notre boutique, je dirais à Survie. Il y a de bonnes lectures à Survie. Nous publions chaque mois une lettre mensuelle qui s'appelle Billet d'Afrique et qui est un petit peu le journal des turpitudes de la France-Afrique. Mais votre idée de la banque est excellente. On avait fait une campagne l'an dernier en demandant à nos militants d'aller remettre à leur banque le livre L'envers de la dette qui démontre comment elles sont impliquées dans des crimes contre l'humanité, comment elles ont financé des régimes odieux et comment elles contribuent à faire mousser la dette, une dette qui n'existe pas, si vous voulez. D'ailleurs, souvent, de plus en plus de gens qui se battent contre la dette, ils ne réclament pas l'annulation de la dette, ils réclament la nullité de la dette, parce que c'est une dette qui n'existe pas, dont les objets. En droit, vous avez un certain nombre de principes de droit. Quand un contrat a été obtenu par tromperie, quand il n'a pas d'objet, il est nul. Par conséquent, cette dette n'existe pas. Et je dirais même encore un précédent plus intéressant. Je crois que c'est en 1897 ou 1898, les États-Unis ont réussi devant la Cour de la Haye, le Tribunal international de la Haye, à faire annuler la dette de Cuba envers l'Espagne, en disant que cette dette avait été contractée par un dictateur qui était à la solde de l'Espagne. Si aujourd'hui, fort d'un précédent créé par les États-Unis, on décrète qu'est nulle la dette contractée par tous les dictateurs, déjà ça va faire un gros paquet de dettes en moins. Donc il y a des précédents juridiques, il y a moyen d'attaquer la dette. Donc, or, là derrière, les banques, évidemment, sont au cœur, parce qu'elles n'ont pas que prêté. Passant par des intermédiaires, repassant par des intermédiaires, quand vous regardez les circuits, ça vous donne le tournis. C'est-à-dire, c'est vraiment incroyable. Chaque fois 1%, 1%, 1%, 1%, puis finalement, à force de rajouter 1%, chaque fois que vous faites de 3 fois le tour des paradis fiscaux de la planète, ça finit par faire des sommes absolument incroyables. Eh bien, là, nous devons demander des comptes aux banques. Un banquier d'importance, qui est un peu atypique, qui est membre du comité scientifique d'attaque, nous expliquait qu'il travaillait dans une des plus grandes banques françaises et qu'il avait expliqué que les spéculations incroyables sur le pétrole du Congo non seulement pillaient le Congo, le détruisaient, mais étaient même extrêmement dangereuses pour la société générale parce que c'est ce qu'on appelle en termes un peu compliqués économiques des positions non dénouées. C'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'où va aller cette opération au terme du bilan. C'est-à-dire qu'on fait une photographie du bilan, mais il y a une incertitude considérable sur ce qui va se passer par la suite. Et il disait, si vous faites ça avec ces positions non dénouées, un jour, la banque en question peut se retrouver en faillite. Bon. Eh bien, la consigne qui a été donnée juste après par le PDG de la banque, c'est de dire, imitez tous ce qu'on fait au Congo, parce que c'est extrêmement rentable à court terme. Donc vous voyez que non seulement ces banques concourent à ruiner au pillage d'un certain nombre de pays d'Afrique et du tiers-monde, parce qu'elles y font de très gros bénéfices à court terme, mais qu'en même temps, elles prennent des risques considérables pour leurs épargnants. Il est tout à fait possible qu'un jour on retrouve un scandale Enron avec une grande banque française. On a déjà eu la BNP, mais à l'époque la BNP était nationalisée, donc on l'a rattrapée, pardon pour la BNP, on l'a rattrapée in extremis grâce à nos infos, d'ailleurs, considérables. Donc ça fait parmi les choses qu'on peut faire. Nous avons mené des campagnes contre les mercenaires. Aujourd'hui, il y a une loi qui a été déposée par le gouvernement Jospin pour interdire les mercenaires 3 jours avant les élections. Elle a été déposée, donc jamais votée, évidemment. Mais cette loi, c'est quand même un progrès. Or, si on faisait un référendum en France en disant question sur les mercenaires, est-ce que vous trouveriez légitime que des mercenaires tchadiens ou rwandais, ou je ne sais pas quoi, aient le droit de venir opérer en France? Je pense que le résultat du référendum serait assez simple. Alors pourquoi nous, dans notre législation, admettons-nous pour le moment que des mercenaires français, qui sont tous pratiquement issus des milieux d'extrême droite, pratiquement tous, le vivier des mercenaires français principal, c'est la garde présidentielle de Le Pen, le département protection sécurité. Et là-dessus, on pourrait raconter de longues histoires incroyables, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Donc, nous envoyons, nous, non pas des mercenaires bien gentils, mais des gens d'extrême droite qui portent en eux une idéologie raciste dans les conflits ethniques en Afrique. Donc ça, c'est assez facile à faire comprendre que c'est quand même pas très conforme à notre surnom de patrie des droits de l'homme. Et là-dessus, on peut se battre, c'est ce que nous avons commencé à faire, pour que le gouvernement actuel dise s'il est pour ou contre les mercenaires et s'il est prêt à voter cette loi qui les interdit. Il va essayer de dire oui, on est bon, mais là il est un petit peu coincé. Bon. Il y a comme ça un certain nombre de campagnes qu'on peut mener, et puis je crois aussi beaucoup à la diffusion de l'information. Vous savez, on a l'impression que ces choses-là ne changent pas. Vous ne pouviez pas imaginer le peuple plus désespéré que Madagascar mi-2001. Et puis tout d'un coup, les logiciels de tous les gens qui disent c'est pas possible, c'est plus possible, on supporte plus, ces logiciels qui fonctionnent chacun dans leur coin, tout d'un coup ces logiciels se mettent à s'accorder, à se mettre en harmonie, et le refus devient quelque chose d'irrépressible. Alors je ne pense pas que le refus des Français par rapport à la France-Afrique sera le premier dans ce mouvement. Mais je pense par contre, quand on écoute Tikelja, vous savez, il peut réunir 100 000 personnes dans un concert en Afrique, hein, il l'a déjà fait. Et je pense que tout cela, ça commence un peu à s'articuler, et qu'un jour ou l'autre, on aura des refus. Dans l'Union européenne, comme aux États-Unis, on dit il faut refuser les monopoles, parce que les monopoles, ça veut dire que le monopole se sert sur le dos du consommateur. Or, Bolloré a le monopole du transport sur une grosse partie de l'Afrique. Pourquoi acceptons-nous, pour les Africains, un monopole que nous refusons ici, eh bien, le jour où les Africains diront « c'est pas normal que ça se fait sur notre dos », on boycotte Bolloré, il n'en aura pas pour très longtemps. Donc, quelque part, il faut que des prises de conscience de l'inacceptable ne se fassent pas dans un petit coin, mais commencent à se réaccorder. Et l'un des enjeux fondamentaux, c'est la conscience panafricaine. Le début de l'indépendance est marqué par les grands panafricains. Ensuite, la politique néocoloniale a consisté à diviser les gens sans arrêt, les pays les uns contre les autres, etc., etc. Il n'y aura pas de possibilité de s'en sortir si on ne réémerge pas ces consciences panafricaines. Alors, comment ça réémerge ?